Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 204. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mon collègue
Pascal Plante. Hey, mais wow, là, tu m'as vraiment décontenancé. Il y a quelqu'un d'autre avec nous aujourd'hui.
Oui, on a la chance d'avoir avec nous Delphine Larose. Delphine, bonjour.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonjour, peu importe quand vous nous écoutez. Delphine, qui bien sûr est une critique qui collabore à Point de vue avec nous, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour débriefer un peu, entre autres, sur les Oscars 2020.
Ben, ça me fait super plaisir.
Mais là, tu remplaces Rémi, là, tu sais, c'était comme notre plan B, là, mais ça, c'est tout le temps comme ça.
Hey, thanks.
On salue Rémi qui prend des vacances.
On salue Rémi en vacances. Ouais, vacances bien méritées, ouais. Bon Rémi. Ben ouais, c'est ça, là, les Oscars, écoute, on enregistre, il est mardi soir, tu sais, là, mon fil Facebook est encore... pullule d'articles de toutes les revues de Hollywood Reporter, Variety, puis toutes les affaires de même que je suis, qui me rappellent encore et encore et encore que Parasite a gagné. Je pense que, rendu là, je pense qu'on le sait, je pense que c'est bon, je pense que c'est l'information est bien rentrée et digérée, mais quand même, quelle information, hein? C'est un précédent, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore pour la première fois. Un film en langue étrangère remporte les grands honneurs, on peut quand même le dire d'entrée de jeu. C'est ça qui s'est passé dimanche soir pour ceux qui vivaient sur notre planète.
Moi, en fait, j'aimerais ça savoir c'est qui les gens qui l'apprennent live là, en écoutant notre podcast. Y a-tu des gens vraiment qui sont complètement déconnectés de la planète cinéma puis qu'on est la seule source d'information qui sont comme « Ah, cool, Parasite vient de gagner. »
Ouais, ça me surprendrait.
Ça me surprendrait. Le diagramme Venn là, des gens genre, t'sais, qui s'intéressent au cinéma mais qui n'ont pas entendu parler de ça, ça va être quand même assez...
Mais, Paul, les Oscars étaient plus tôt cette année. Ça a peut-être joué un peu en sa défaveur au niveau des cotes d'écoute. On annonce le show le moins regardé de son histoire, apparemment.
Mais en même temps... Je sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est une course qui était moins alléchante. Tu sais, moi, j'en parlais beaucoup avec du monde de différents niveaux de cinéphilie, là, autant des collègues de bureau que des gens plus ou moins, tu sais, qui le suivent de loin. Puis c'est vrai que cette année, il y avait comme pas une course excitante. On dirait que... Tu sais, d'habitude, c'est souvent, mettons, il y a 2-3 films qu'on sait qui vont l'avoir, puis là, les pronostics, tu sais, tout le monde est excité. Puis on dirait que cette année, c'était pas très excitant. J'ai l'impression que la... Tu sais, il y avait comme plusieurs, mettons, films que les gens aimaient, là, tu sais, des films acclamés par la critique puis les cinéphiles qui avaient pas de nomination. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que les films en nomination, c'était pas nécessairement des... Bon, tu sais, il y avait un peu l'idée, genre, est-ce que Joker va avoir des gros prix... Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que Netflix va remporter un peu la soirée en gagnant plusieurs prix, tout ça? Puis bon, il y avait évidemment Parasite qui est comme l'outsider, là, puis un peu le mouton noir ou l'underdog, comme, peu importe comment on veut l'appeler.
Ouais.
Mais c'était pas vraiment une soirée, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de buzz.
Ben tu sais, en fait, je pense que c'est devenu excitant au moment où Parasite a commencé à gagner des prix, qu'on s'attendait pas à ce qu'il gagne, tu sais.
Ben, scénario original, en l'occurrence, là, tu sais, je veux dire, je pense que c'est souvent le terrain Oui, c'est ça, mais le premier, celui qui a ouvert le bal pour la soirée, c'était vraiment son prix de scénario. Puis, tu sais, là où on attendait peut-être plus un Tarantino dans cette catégorie-là. Tu sais, moi, pour vous dire, j'ai pas fait de pool d'Oscars officiel, là. Moi, j'étais comme une soirée avec des amis. On a regardé les Oscars, évidemment, mais c'est comme un souper qui a viré en soirée de. C'était pas la grosse soirée, là, méga, ultra crinqué, primé, là, avec mon pool, là, imprimé, avec toutes mes coches. Mon cochage de cochonnerie, là, bon, tu sais, c'était plus relax que ça, quand même, mais quoi que, quand ça commence, puis Janelle Monáe est en furie, tu te scotches à la télé, puis là, ça va bien. Ça, c'était un des bons coups de la soirée, là, d'ailleurs, le numéro d'ouverture était vraiment super,
ouais.
Mais c'est ça, fait que oui, lorsque Parasite a gagné meilleur scénario original, tout de suite, hein, c'est comme si il y a comme un momentum au coup dans la soirée, c'est tout le temps comme ça dans les Oscars, puis là, ça, c'est vraiment là où je me suis dit, ouais, deux minutes, ça se pourrait vraiment que Parasite gagne, finalement. Puis enfin, et inversement, je me suis dit, ça sera pas une bonne soirée pour Once Upon a Time in Hollywood, parce que, tu sais, on l'attendait évidemment pour Brad Pitt, mais c'était à peu près ça. Bon, finalement, il a quand même remporté Production Design, quand même. Mais
tu vas vite, Pascal. Là. Moi, je dis, faisons comme Little Woman et mettons un flashback sans l'annoncer en plein milieu de l'épisode.
Ouais.
Donc là, c'est ça. Toi, t'as dit un peu que t'es dans une soirée avec des amis, mais que c'était pas trop non plus les paris pis les poules. Toi, Delphine, dans quel contexte est-ce que t'as écouté les Oscars?
Ben écoute, moi, je suis allée pour la première fois au cinéma du parc écouter les Oscars avec des amis. Puis c'est vraiment une expérience super agréable. Il y avait dans le fond, il y avait deux salles remplies là, pour l'occasion. Puis, écoute, nous, on est arrivés à 5h30 pour être certains d'avoir des places, faire nos poules.
Ça, c'est rendu une tradition, ce cinéma du parc. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Là.
Oui, c'est ça. Puis, c'est le directeur de Fantasia qui fait l'animation. Fait que, tu sais, c'est super le fun. Il y a des prix à gagner. Puis, il y a vraiment de tout, là. Il y a autant des étudiants en cinéma que des espèces de personnages qui sont dans la salle à manger du yogourt pendant 5 heures, puis à genre... Mais c'est le fun parce que tu vis ça en gang.
C'est tellement spécifique, là. C'est vraiment très spécifique.
Le yogourt, il était à l'érable et ça sentait à chaque fois qu'il ouvrait son pot. Mais c'était, tu sais, tout ça a fait que c'était une expérience vraiment qui sort de l'ordinaire. Tu sais, moi, je l'écoute habituellement soit avec mes parents ou tout seul chez nous, tu sais. Puis là, tu te ramasses, je sais pas, là, 100 personnes dans une salle, puis... Il nous encourageait à cheerer, à comme, hey, si la fille elle a une belle robe, all right, on l'applaudit. Puis tu sais, quand Parasite a gagné à la fin, là, c'était, je dois dire que c'était presque aussi impressionnant, Paul, que Kevin T. Landry dans votre vidéo à l'UNIS. Parasite.
Mais... Oui, c'est ça, parce que nous, de notre côté...
Alors, Paul, toi.
Ben, nous, c'est pas moi qui l'ai organisé. Parce que vous savez, là, mon cynisme, puis genre à quel point les Oscars, ben, je m'en fous un peu.
C'est pour ça que ça me surprend. Ben c'est pour ça que ça me surprend. Puis ça me surprend même que là, t'étais comme, hey, il faut faire un podcast, là, post-Oscar. J'étais comme, mon Dieu, Paul, quelle mouche t'as piqué. D'habitude, là, genre, on aurait laissé traîner ça pour que le hype meure tellement que le prochain podcast, on aurait à peine parlé, tu sais. Puis là, on est comme full à chaud dedans. Ouais,
ben, parce que, ben, pour plein de raisons, je pense que la victoire historique de Parasite, ça m'a remonté. Et je pense que je vais être obligé de comme pas trop chialer sur les Oscars pendant l'année à venir. Mais c'est ça. Puis tu sais, je me disais, écoute, seul, j'écouterai jamais les Oscars. T'sais, si je suis nous, j'ai rien de prévu, je vais pas perdre mon temps à écouter les Oscars. Mais avec des amis, c'est un bon prétexte, une bonne façon de genre, puis let's go, on fait des paris, puis on essaie d'avoir le meilleur vote, le meilleur score sur 24. Bon, là, j'ai eu genre comme 16 sur 24, qui est comme correct, là, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mm-hmm. Et c'est ça, puis c'était Kevin T. Landry, un cinéaste qu'on salue, un ami, qui avait organisé ça, plus à une intense. Et là, il est comme, OK, on va louer une salle à l'INIS, parce que, bon, il y a des contacts, puis il a étudié là, je crois, ou je sais plus trop. Et on était vraiment dans une salle de cours, une salle de classe.
C'est ça.
Puis là, on essaie de...
Zéro ambiance. Ben, là, dans l'éclairage, ben, fret. Non, mais ambiance humaine. L'éclairage,
décor, pas nécessairement. Mais, tu sais, on était avec des amis, tout ça, dont Rémi Fréchette et tout. Et au début, on essayait avec le Chromecast là, de se connecter. Puis là, quelqu'un avait amené son Chromecast, son application Bell. Puis là, tu sais, c'était comme le super truc, là, tu sais... avec plein de gens de cinéma qui sont dans la salle, puis on n'arrive pas à se connecter, puis c'était comme la grosse panique. Puis finalement, ça commence, là. Tout le monde est sur leur selle après essayer de trouver des solutions. Moi, je vois que comme quelqu'un a tagué, quelqu'un fait un statut, bon, une joke de Midsommar après 2 minutes, ça commence bien, tu sais, parce que Midsommar qui a eu aucune nomination.
Fait que vous avez manqué le numéro d'ouverture de
Jean. On a toutes manqué l'ouverture. Puis je l'ai même pas finalement réécouté là, encore, là, mais je vais sûrement le faire. Là.
C'était de loin la meilleure affaire musicale du show, parce que Lise Toon nommée aux Oscars, je peux toujours faire une montée de lait, là. C'est comme, sérieusement, là. Ben, il y avait celle du film de sur Harriet Tubman, là.
Mais ça, c'était beau. C'est la fille.
Oui, en fait, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a surpris, tu sais. C'est la seule fois où je roulais pas des yeux, finalement, pour une des tunes originales.
Ouais, puis je veux dire, Billie Eilish pour le Memoriam aussi.
Oui,
c'était
cool.
Oui. Mais ça, c'est un peu à... Ouais, oui. Mais ça, c'est un peu à part, ou sinon Eminem qui se pointe. Bon, bref, on va pouvoir en reparler, j'imagine.
Mais moi, le numéro de Frozen, j'ai quand même aimé ça. J'ai trouvé le clin d'œil vraiment le fun.
Avec les multiples langues. Ça fait un peu, tu sais, genre, bonus DVD circa 2004, là, genre, quand je voulais montrer la technologie, puis comme, hey, tu peux écouter dans 10 langues, tu sais.
J'ai trouvé le clin d'œil sympathique, tu sais, parce que justement, aux Oscars, c'est toujours les versions originales, en anglais, tu sais. Puis de faire un clin d'œil que ce film-là, ben, il a été traduit en 144 langues, tu sais. Puis de. Non, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça le fun.
OK. Ah, oh, moi. Moi, je voulais des œufs. Mais bon, mais ça, c'est la vie, ça, c'est les Oscars. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est parce que les gens, ils se demandent c'est quoi qui marche pas avec le show de télé, tout ça. Mais il y a une grosse partie de ce qui marche moyen dans le show de télé. C'est un petit peu les choix, les performances musicales, finalement. Tu sais, comme quand c'est ça qui casse le rythme d'une soirée de remise de prix, puis de gala, puis de gens dimanchés qui font des discours, tu te dis, ouais, la musique, là, il manque de mise en scène, il manque d'éclat, il manque de
choses. Puis en plus, ce qui est ridicule, c'est qui n'ont pas plus fait la promotion, mettons, du numéro d'Eminem. Parce que bon, Eminem, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, dans le fond, il a fait sa tune Lose Yourself, qui a gagné un Oscar 2003 pour 8 Mile, ouais. Ce qui est une tune, un classique, là, tu sais. Mais à l'époque, il ne l'avait pas fait, il refusait de venir aux Oscars, tout ça. Là, il est rendu plus vieux, il a besoin de plus de promotion, je ne sais pas trop, mais il a accepté de le faire. Et c'est juste que c'est, bon, tu sais, peu importe ce qu'on pense de sa performance ou non, tu sais, ou de la chanson, de ce qu'on en pense, c'est sûr que ça attire un public qui est différent du public type des Oscars. Mais donc, ce qui est weird, c'est de ne pas avoir fait la promotion là-dessus pour dire « Hey, les jeunes, ou peu importe qui, son public, tu sais, vous viendrez voir, il va faire sa performance enfin 18 ans plus tard. » Puis là, il y aurait comme ouais. du hype. Mais là, au contraire, c'était zéro annoncé. Puis quand ça a commencé, tout le monde était comme « Hein? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se passe? »
Ouais, ouais.
Puis genre, il y a eu aussi genre, la caméra qui a fait des reaction shots de certaines personnes dans la salle, puis c'était loin d'être unanime. Tu sais, c'est pas tout le monde qui bumpait puis qui était comme super content. Là. T'avais vraiment des faces de genre gens confus.
On
puis,
salue
puis,
là, Martin Scorsese.
ouais, entre autres. Là, tu sais, puis c'était vraiment genre un peu surréaliste, puis je comprends l'intention, mais c'est comme vous avez raté le coche. Là. Alors que l'an dernier, il avait bien fait ça justement en disant « Ah, oh, on va avoir Bradley Cooper puis Lady Gaga qui vont interpréter Shallow dans leur personnage de Star Wars ouais. ça. Et ça, c'était comme un des moments les plus attendus. Puis c'est comme ça que tu fais la promo. T'sais, je comprends pas le stunt de faire « Oh, surprise, il y a Eminem! » Tout le monde s'en fout
peut-être qu'il essaie de ramener un peu de live dans l'histoire. Parce que, tu sais, il y a aussi ça. Hein. Tu sais, c'est quoi qui fait que les codes d'écoute peut-être déclinent d'une façon? Quoi que c'est cyclique, là, c'est pas juste une tendance à la baisse. Là. La tendance, elle est à long terme, elle est à la baisse. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des mm-hmm. années meilleures que d'autres. Bon, bref. Ouais. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, il y a plein de gens là qui ne le regardent pas nécessairement, mais qui sont connectés sur leur ordi puis qui ont comme les résultats mm-hmm. qui arrivent live. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est excité par le show en tant que tel. Mais il y a des gens qui s'intéressent quand même d'une certaine façon à qui a gagné puis pourquoi. T'sais. C'est parce que l'information existe, la toile elle est là, les gens ils. T'sais. Donc, puis les meilleurs moments, ben ils sont en mash-up sur YouTube le lendemain. Fait que tu sais, il y a un petit peu de ça, c'est que ça perd c'est par la nature même du bassin médiatique dans lequel on vit. Le live, là, les Oscars comme événement, le live, tu sais, perd un petit peu des plumes. Je pense que c'est pas contre le show en tant que tel, je pense que c'est juste l'ordre naturel des choses et des nouveaux médias.
Ben, je pense qu'au-delà des Oscars, tu sais, c'est tous les galas, c'est comme ça, là.
Ben c'est ça, exact. Puis, tu sais, mettons, nous, là, on a trouvé un genre de lien, comme à chaque année, un genre de lien un peu shady, un peu comme sketch, là, puis c'est qu'on l'a streamé toute la soirée avec un lien, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je suis pas comptabilisé dans les statistiques. Il y a plein de gens, j'imagine, aussi, tu sais, sur Facebook, là, dans ma bulle, là, c'est comme tout le monde demande un lien secret pour visionner les Oscars, tu sais, je veux dire, je sais pas, là, ça finit par faire beaucoup de gens qui sont comme pas comptabilisés dans ces statistiques-là, mais qui s'y intéressent et sont au courant et finalement vont l'avoir vu, que ce soit live ou plus tard ou en redifféré ou peu importe. T'sais. En tout cas.
Mais s'ils veulent renouveler leur public, il faut aussi que le bassin de votants soit plus jeune puis que les films, ça reflète un peu les films que les jeunes vont voir. Parce que pour vrai, il y avait pas grand chose.
Ben, t'aurais-tu mis Avengers Endgame meilleur film? Peut-être que oui, ça peut être légit comme position.
Pas nécessairement Avengers, mais justement, plein de films de jeunes réels. Il y a eu Little Woman un peu là, qui était peut-être pour la crowd plus jeune, I guess, mais c'est un film d'époque. T'sais. Mais
t'sais, que les frères Chavdi ont été boudés, moi, pour moi, c'est aberrant. Là. T'sais, je veux dire, ouais. C'est une nouvelle génération de réalisateurs qui attire un public plus jeune, avec un Adam Sandler qui fait une performance époustouflante, puis on n'en parle même pas aux Oscars, c'est ridicule, là.
Ouais. Mais bon. la soirée en tant que telle, le gala, il n'y avait pas non plus de host cette année, comme l'année dernière. Est-ce qu'on s'en ennuie nécessairement? Je ne sais non, pas, mais ça fait un peu des moments longs, puis awkward, puis tu sais... Genre, nous, bon, avec la gang qu'on était, ça buvait, ça parlait, puis honnêtement, on avait de la misère un peu à entendre des fois ce qui se passait, puis on manquait plein de jokes, puis plein de numéros, là. Mais, tu sais, de ce que j'ai entendu, j'ai pas vraiment trouvé rien de drôle. Même Will Ferrell, tu sais, que je suis un gros fan de son personnage, puis tu sais, ses apparitions publiques ou peu importe. Là, j'ai trouvé que son numéro il était ordinaire, là, comme il était comme, ah, c'est quoi un cinématographer, tout ça, c'est un peu... L'humour un peu de papa, là. T'sais.
Ouais, avec l'oreillette, là, ouais, je suis d'accord.
Puis, Kristen Wiig et je m'en rappelle plus le nom de sa collègue, là, les deux humoristes.
Ben, il y a Kristen
Mara Rudolph, là.
Puis Kristen Wiig.
Ouais, c'est ça. Ces deux-là, en fait, leur numéro aussi, tu sais, d'habitude, sont super drôles, ces filles-là. Puis là,
je trouve que ça tombe
un peu à plat. Il y a comme, y a-tu une joke qui vous a fait très... Y a-tu comme des moments que vous avez fait genre, ça c'est vraiment bon comme sketch ou...
Ben, les cats. Fucking cats.
Ouais, ça c'est vrai.
J'étais plié en quatre. Non, mais vraiment, ça c'était... Mais puis en plus, là, j'ai lu, ben écoute, j'ai lu un peu en diagonale, là, mais je sais que la blague n'a pas été si bien reçue là, par, par la société des effets spéciaux et tout, bon bref. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est comme si on le bouc émissaire de ce fiasco cinématographique-là, qui est quand même, qui est pas juste sur la médiocrité des effets spéciaux, là, on l'a vu, Kat, on sait de quoi on parle. Hein,
pas. C'est l'ensemble de l'œuvre.
Ben oui.
C'est l'ensemble de l'œuvre qui fonctionne pas. Fait que juste de commencer à dire que c'est. Je comprends. Bon, après ça, il faut quand même respirer par
le. Même y aller en spécifique, là, c'est pas les effets spéciaux, c'est la gestion des ressources humaines, là, probablement.
Ouais,
là,
probablement.
C'est un film qui aurait dû être repoussé. Là,
mais lorsque tu ne penses pas à tout cela, à tout ce qui est derrière cette blague-là, je pense que la blague, elle faisait vraiment mouche. Là, c'était fucking drôle.
Moi, j'ai trouvé que c'était tellement évident. C'est qu'on dirait qu'il n'y avait aucun second degré à aucun des numéros puis des trucs. C'est tout le temps genre... Je sais pas, c'est vraiment plate l'humour cette année, je trouve.
C'est pas des numéros, tu sais, c'est des présentations de prix. Tu sais, vu qu'il n'y a pas d'animateur, justement, c'est comme une présentation un peu plus longue. Tu sais, t'as pas vraiment, je trouve, de latitude en temps non plus, là.
Je sais pas, moi je m'ennuie de Ben Stiller qui arrive costumé en avatar mais qui explique rien, tu sais, puis un côté un peu plus genre weird, là, tu sais. Mm-hmm. C'était très safe comme soirée, je trouvais, là.
Bon, mais maintenant, par rapport au prix. Par rapport au prix, c'est tout, on est tout sauf safe.
Ça dépend de tes catégories. Là. Il y en a 24 quand même.
Ouais, j'avoue.
Moi, cette année, sous quelques réserves, là, t'sais, habituellement, moi, là, les Oscars, ça me met en maudit à chaque année. Genre, je suis toujours fâchée que certains films gagnent des prix. Je suis toujours comme, calique, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, cette année, je trouve que, en grande partie, les prix étaient mérités. Fait que, tu sais,
Moi, je trouve que ça n'est pas. Faut dire que les prix sont mérités par rapport aux nominations. Oui, mais les nominations en tant que telles sont dégueulasses. Puis tu sais, pour moi, à peu près les 24 catégories, il y avait tout le temps de quoi qui, pour moi, faisait pas de sens. Puis notamment, l'acteur de soutien cette année, là, c'est un peu con parce que quasiment les 5 qui sont en nomination, c'est même pas vraiment des acteurs de soutien. C'est genre des co-leads, là. Puis, tu sais, ça devient vraiment unfair, là. Tu sais, je m'excuse, mais Brad Pitt, là, c'est le co-lead, là. C'est deux lead rôles, lui, puis les
Anthony Chaffio. Hopkins dans The Two Popes, on est vraiment là.
Mais, tu sais, c'est juste que ça. C'est qu'il y a tellement d'aberrations dans les nombreuses nominations que, une fois que t'as fait le deuil, que c'est avec ça les films en nomination, effectivement, les gagnants, bon, pourquoi pas, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, Brad Pitt, il est bien solide dans son rôle, mais, tu sais, c'est ni son meilleur rôle à lui,
Trêve de cynisme, là, sur les 9 films nommés meilleurs films, il y en a quoi? Il y en a la bonne moitié, c'est des bons films, là. La bonne moitié de ça, c'est tous des films que je recommanderais autant à mes amis cinéphiles qu'à ma famille. Tu sais, comme, on n'est pas quand même complètement dans une année désastreuse. Il y a des années bien pires que ça, là. Alors, on va se le dire.
Tout à fait. Et le triomphe de Parasite vient racheter beaucoup de choses, en fait. Comme c'est le dernier moment de la soirée, puis c'est le climax, puis c'est l'euphorie, puis personne... Parce que oui, il y avait une possibilité, évidemment, mais je pense que c'était pas ça qu'on s'attendait. Autant d'audace de la part de l'Académie, mais là, je pense que ça allait vraiment finir sur une bonne note. Puis là, soudainement, c'est comme, un moment historique, puis tant mieux, puis enfin, qu'est-ce que ça signifie, puis tu sais.
Qu'il l'avait fait gagner meilleur film international. Fait que tu te dis, bon, il a gagné international, il gagnera pas meilleur film, tu sais. Puis là, coup de théâtre...
Imagine l'inverse, ça pourrait. Genre, les gens sont comme, tout le monde va voter pour lui, fait que je vais voter, mettons, pour Pain and Glory, juste parce que je vais lui donner, genre, mon support. Ça aurait
été drôle. Moi, j'ai fait un peu en boutade là, sur mon Facebook, mais moi, je trouve que les meilleurs coups de la soirée au niveau des prix, le Parasite, donc, expose en 4, là, ça, quand même, définitivement. Musique de Joker, je pense que même ceux qui ne sont pas particulièrement fans de Joker vont quand même reconnaître l'énorme talent. Puis surtout qu'Il dure qu'une natte de tir, c'est comme un peu l'ensemble de l'œuvre cette année, là, entre Tchernobyl et Joker. C'est quand même une genre de force. Si c'était pas déjà affiché, c'est comme une nouvelle force dans le monde très masculin aussi, c'est-à-dire là, de la musique, de la composition musicale de films. Ouais.
Donc, c'est pour ça que ça blesse encore plus que Michael Levy n'était pas en nomination pour Monos. Là. Genre, trame sonore bien plus intéressante que... Tu sais, genre, j'adore John Williams, là, c'est une légende, là. Mais ouais, ouais, ça trame sonore pour Star Wars, c'est juste genre, bon, ben, John Williams, là, I guess.
Ouais, ouais, c'est au micro-ondes un peu, là. Je suis très d'accord. Mais tu sais, du micro-ondes de John Williams, ça reste comme meilleur que beaucoup d'autres affaires, là. Mais oui, on se comprend. Fait que, ouais, il dure qu'une note de tir, gros coup. Moi, j'ai Parasite, puis voyons. Oui, puis tu sais, Roger Deakins, là, même si rendu là, là, c'était quoi, sa 13e nomination? Mais tu sais, c'est le gars, c'est un, le bonhomme, c'est
une deuxième victoire.
Puis, tu sais, 1917 aussi, j'en ai pas parlé au podcast, c'est vrai, on en a pas parlé ici. On peut bien l'accrocher si ça vous tente, mais écoute, s'il y a bien une chose qui fonctionne, puis le film carbure là-dessus, c'est vraiment ça, là. T'es comme. Tu rentres dans le train-train de Roger, puis il t'amène, pendant 2 heures, il va te percer, là, tu sais. Donc, en ce sens, c'était mérité. Sinon, c'est ça, on dirait que c'est des prix fidèles à eux-mêmes, mais des prix qui m'ont quand même fait rouler les yeux. À commencer par meilleur montage, Ford contre Ferrari. Ça dure 2h30, ce film-là, man, pour raconter là, l'équivalent de. Qu'est-ce que ça raconte, ça? T'sais, oh là là. Mais tu sais, puis mais oui, là, j'imagine qu'il y a comme des. Ça prend du talent pour couper aux bonnes places dans les courses de chars et les rendre excitantes, mais c'est-tu si excitant que ça? En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Moi, en tout cas, je suis assez détracteur de Ford contre Ferrari rendu là.
En même temps, moi, je trouve qu'il y a, au moins 3 films dans les nominations qui n'ont pas d'affaire là. Fait que, ouais. Que ça. Bon, évidemment, Parasite, ça aurait été mieux à Yes. Là. Puis, genre, mais... Uncut Gems, ça, c'est tellement une question de montage aussi, ce film-là, ouais. Pour que ça marche autant. Là.
Ouais, absolument. Mais tu sais, Irishman aurait pu l'avoir là. T'sais.
Effectivement.
Parce qu'Irishman repart bredouille. Tu sais, Thelma Schoonmaker, ouais. C'est une légende. Ben oui, pour
vrai. Oui. Pour l'ensemble de son œuvre, oui, mais je sais pas si ce film-là en particulier, c'est particulièrement bien monté. Là.
Ben, tu sais, t'as du stock, là, puis c'est sur des décennies, puis je sais pas, c'est fluide, moi, je trouve.
Tant qu'à, j'aurais mis Hidden Life en nomination dans le meilleur montage, là.
Ah ouais,
tant qu'à avoir un film épique, là, tu sais.
Ouais, mais là, t'as peu, là, tu parles des Oscars imaginaires, là, tu parles...
Ouais, non, je sais.
c'est ça, là, tu critiques pas la bonne affaire, là. Fait qu'on va y aller chacun à tour de rôle, là. Vous, mettons,
ouais, Delphine,
bon coup, moins bon coup. Delphine, moins bon coup.
Écoute,
beaucoup moins beaucoup.
Vas-y donc, Paul, je vais réfléchir.
Ben, moins bon coup, puis tu sais, je veux dire, je suis pas le plus gros fan des blockbusters, mais c'est quand même un peu ridicule que 1917 remporte les effets spéciaux devant Star Wars, devant Avengers Endgame. Tu sais, je comprends que, mettons, les effets spéciaux, c'est pas nécessairement une question de budget ou tu sais, mais entre ces films-là puis 1917, lesquels vraiment poussent l'enveloppe puis développent des nouveaux trucs, tu sais. Moi, je pensais qu'Avengers Endgame, c'était un lock, là, tu sais, puis je trouve aussi que c'est pas obligatoire de, tu sais, récompenser nécessairement ces films-là parce que, anyway, Disney a quasiment un monopole, là, tu sais, rendu là, puis, je veux dire, ils font tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en faire. Mais il me semble que, pour moi, s'il y avait... une équipe d'effets spéciaux, ben, une équipe, c'est genre 20 teams d'effets spéciaux là, sur Avengers Endgame, là, mais qui méritaient l'ultime victoire, c'est bien eux, là, tu sais. Ou peut-être Lion King aussi, parce que dans le fond, tu sais, c'est photoréaliste, là, tu sais. Mais ouais. Ça, j'ai trouvé un peu bizarre, là, tu sais. Alors que 1917, ouais, mais... c'est beaucoup de juste comme rendre ça fluide, puis s'assurer que les cotes passent bien, puis... T'sais,
ouais, mais tu sais, Visual Effects aussi, c'est parce que là, maintenant, on fait tout de suite l'association avec images de synthèse. Il y a d'autres sortes d'effets visuels, d'une certaine façon. Tu sais, dans 1917, c'est ce qui est intéressant, ouais. C'est tout le travail avec les explosifs ou, tu sais, les détonations qui sont tous des détonations analogues aussi. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'effets analogues. Bon, évidemment, il y a aussi des moments de CGI qui se passent plus ou moins bien, là, comme, tu sais, ils tombent dans la chute d'eau ou je sais pas quoi, puis là, c'est comme bonjour le jeu vidéo, là. Mais je pense que si jamais on voulait faire un statement pour élargir la définition d'effet visuel puis revenir à quelque chose d'un peu plus analogue, 1917 pouvait se défendre sur cette base-là.
Mais je pense que c'est beaucoup ça qui se passe. Je pense que c'est une tendance dans les dernières années, comme l'an dernier, c'était First Man aussi qui l'avait reçu. Ouais. En même temps, c'est correct. Je me dis... Ex Machina, il y a quelques années aussi, qui l'avait eu. Fait que je pense que c'est quand même bien... De vouloir récompenser sur des films un peu plus indépendants qui réussissent malgré des budgets plus modestes.
Ouais.
Mais reste que... En tout cas, je trouve ça un peu dommage pour un film comme Avengers Endgame. Sinon, un bon coup, honnêtement, je suis pas le plus gros fan du film, mais Best Production Design pour Once Upon a Time in Hollywood, c'est amplement mérité.
Ouais,
s'il y a vraiment quelque chose, là, c'est toute l'équipe là, qui a recréé cette période-là de manière tellement intense. On sait que ça vient du haut, ça vient de Tarantino, qui le premier est un méga nerd, là, puis qui sûrement devait s'obstiner à tous les jours là, pour faire des recherches, puis avoir exactement telle affiche, telle enseigne au néon, telle canne. Mais c'est toute une équipe qui a accompli ça, puis c'est vraiment comme. C'est flawless. Là.
Si je voulais jouer à l'avocat du diable, moi, c'est parce que je trouve que 1917, c'était peut-être un endroit où il brillait, c'était dans son production design, parce que de par la nature de comment le film est construit, c'est comme si. C'est comme un studio en. Ultra trois dimensions. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si le canevas devient comme la nature, puis genre, où est-ce que le, je sais pas, le champ de Cherry Blossoms va être, à combien de distance de la maison, de l'église. C'est comme si j'ai vraiment trouvé ça intéressant comment le production design était imbriqué dans la narration du film, dans le rythme du film. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de borderline. Vraiment inventif là, dans 1917 pour spécialement production design. Mais bon.
Mais ça, d'ailleurs, c'est les meilleures catégories, là, les nominations qui sont là. À part peut-être Jojo Rabbit, que ça me laisse un peu froid, mais les quatre autres, là, Irishman aussi aurait pu l'avoir.
Puis même Parasite, hein, moi j'ai lu certains articles aussi où ils poussaient un petit peu. Évidemment, la maison, elle a été construite vraiment. Puis encore une fois, c'est intéressant parce que c'est du production design qui devient, encore une fois, imbriqué dans le côté narratif du film.
Ouais,
à l'inverse des fois de Once Upon a Time in Hollywood où tu le sens un petit peu les clins d'œil, les coups de coude, les hey, check moi, check comment c'est hot, tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
Oui, mais le film, c'est ça. C'est vraiment c'est un conte de fées dans un Hollywood imaginaire. Puis je veux dire, je trouve quand même que c'est une de ses grandes forces au film. Là.
Totalement. Je soutiens ce que Pascal dit, tu sais, je veux dire, dans Parasite. Le design vient comme soutenir l'histoire puis les strates sociales. En tout cas, c'est tellement tout de ce film est calculé et bien utilisé là.
Ouais, vraiment. Mm-hmm. Et toi Delphine?
Ben écoute, j'ai réfléchi, ben un moi qui m'a puis fight me là, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé The Two Popes cette année. Puis pour moi, c'était un des screenplays qui était le plus fort. J'ai pas vu Jojo Rabbit. Fait que tu sais, je peux pas comparer, mais tu sais, pour moi, The Two Popes aurait dû gagner du moins Adapted Screenplay.
Ben, écoute, l'affaire de The Two Popes, c'est que ça manquait d'une espèce de figure imaginaire homosexuelle de Hitler. Là. sinon, c'est un très bon screenplay.
Eh boy! Le scénario de ce film-là est excellent. Puis c'est un milieu qui est tellement dense. Puis, ben, tu sais, tout ce qui est papoté, là, comme j'en ai parlé dans ma critique, c'est tellement quelque chose d'hermétique puis d'énorme. Puis ce film-là est comme une espèce d'ouverture sur ce monde-là. Puis c'est bien vulgarisé. En tout cas, moi, j'ai gros coup de cœur pour ce scénario-là. Puis je suis un petit peu déçue, mais tu sais, c'est vraiment très personnel.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est un film, regarde, vois-tu, les nominations de The Two Popes, ça parle de soi, en voulant dire c'est les deux papes et c'est le scénario, puis c'est vraiment ce que c'est-à-dire Fernando Meirelles, qui est quand même un méga incroyable, la cité de Dieu, bordel, là, je veux dire, s'il veut faire de la mise en scène flamboyante, il est capable de le faire, puis c'est drôle dans The Two Popes, quand il en fait un peu, tu sais, parce qu'il y a comme des flashbacks, là, du jeune pape François, là, Bergoglio, là, c'est pas dans ce film-là, on dirait que c'est pas ces moments-là qui brillaient. Je trouvais vraiment que le côté, la caméra posée, puis les moments de dialogue, puis je sais pas, cette espèce de joute verbale-là, c'était ça qui brillait le plus, beaucoup plus que les moments où il essayait, où il revenait à quelque chose de plus audacieux et plus exubérant. Fait que, ben oui, donc c'est ça, oui, je te supporte là-dessus. C'est vrai que c'était une belle. Ben, c'est bien déjà qu'il soit nommé, en fait.
Mais tu sais, puis c'est ça, comme tu dis, c'est tellement dense, puis ça aurait pu tomber rapidement dans quelque chose de lourd ou de compliqué, mais tu sais, c'est tellement fluide, puis justement, comme tu as dit, c'est les deux acteurs puis le scénario qui font tout ça, tu sais.
Acteur-scénario, ouais.
Fait que ça, c'est mon petit côté, ma petite déception, puis un prix qui m'a vraiment fait plaisir, puis qu'on le savait que ça allait arriver, là, mais c'est Laura Dern qui gagne pour actrice de soutien, tu sais. Ah, moi, je l'aime assez, puis je l'ai tellement trouvé... Moi, puis vous le savez, j'ai pas tant trippé sur Marriage Story, mais son personnage, je l'ai trouvé... super dans ce film-là. Puis, tu sais, un petit clin d'œil aussi. Tu sais, moi, j'ai bien aimé Little Woman. Je sais pas, tu sais, je trouve que c'est une actrice qui est rendue là dans sa carrière.
Sa carrière est incroyable. C'est Ouais, c'est vraiment une actrice incroyable, donc...
C'était un petit bonbon, là. J'étais très contente pour elle, puis...
Mais c'était peut-être une des catégories les plus faibles. T'sais, si on compare d'année en année, qu'on regarde des certaines brochettes, je suis comme... Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, pour vrai, t'sais. Margot Robbie dans Bombshell, ça va, mais t'sais, pour vrai, c'est ça. Moi, actrice de soutien, c'est peut-être... Il y a des années, c'est cyclique, là. Mm-hmm. Ça, c'était peut-être l'année où c'était peut-être un petit peu plus creux à mon très humble œil.
Ben, puis il y en avait d'autres. Là. Beaucoup de gens étaient choqués que la grand-mère dans Farewell soit pas en nomination, puis elle a gagné d'ailleurs le prix dans d'autres galas. Là. Ouais. Puis de Farewell, un grand oublié aussi. Là. C'est un excellent film. Vraiment. Passez pas à côté parce qu'il n'y a pas eu de nomination.
Mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas, comme je dis, c'est un bonbon parce qu'on le savait qu'elle allait gagner. Je veux dire, il n'y a pas. Il n'y avait pas vraiment de compétition, là, ouais. Mais c'est juste, c'est ça, c'est toujours l'avoir gagné, puis tu sais, je veux dire, elle est tellement humble, elle a remercié sa mère, je sais pas, c'est tellement une femme élégante, puis elle est tellement bonne dans tout ce qu'elle fait, que ça m'a juste fait plaisir de l'avoir gagné.
Puis sinon, pour le prix du meilleur film de Pixar de l'année, c'est Toy Story 4 qui l'a remporté.
Oh, mais... Hey, mais en même temps.
Ça aurait été cool. Non, mais souvent. C'est arrivé quelques fois que la branche animation a comme voulu récompenser autre.
Comme au Golden Globe. Au Golden Globe, c'était Missing Link de Laika qui l'avait remporté.
Mais c'est parce que c'est embarrassant parce que, tu sais, juste la semaine d'avant ou quelques jours avant, t'avais les Spirits Awards, qui est comme les films indépendants. Puis là, quand tu regardes le palmarès, là, ça fait. Tu sais, genre, moi, je trouve que c'est vraiment meilleur. C'est une meilleure façon d'obtenir le pouls du cinéma américain intéressant, selon moi, de l'année, c'est de voir le palmarès des Spirit Awards.
Je les ai vus, les films d'animation, les amis. Parce que moi, tu sais, j'avais beaucoup, beaucoup aimé J'ai perdu mon corps. On en avait un peu parlé, je pense qu'on l'avait accroché rapidement au podcast. Ça demeurait mon choix de cœur, même si mon choix de tête, c'était Toy Story 4, puis surprise, Toy Story 4 l'a emporté. Hier soir, j'ai visionné un film de Noël, déguisé un peu. J'ai vu Klaus, en fait, le film d'animation. L'avez-vous vu, les amis?
Non.
Non, mais il y a vraiment beaucoup de buzz, puis il y a beaucoup de gens qui disent que c'est comme un excellent film d'animation, une excellente production de Netflix. Hein.
Écoute, si, Paul, tu as un trop-plein de cynisme, un de ces quatre, écoute Klaus, parce que c'est donc un film réconfortant. C'est une belle soupe à l'oignon gratinée là, dans une soirée froide d'hiver incroyablement réconfortante. Non, je vais vous faire un petit peu le synopsis rapide. Là. Donc, c'est un jeune un peu brat, là, un ingrat ado, un peu jeune adulte là, qui habite dans une genre de famille méga, méga, méga riche, une dynastie de postiers. Et lui, il s'en fiche, il veut pas devenir postier, il fait juste un peu surfer sur la vie facile que son monde privilégié lui offre. Et puis là, son père, pour lui donner une leçon, il lui dit « Ah ouais, tu fais exprès de tout échouer, tous tes examens de postier, je vais t'amener dans une île au nord du nord du nord, une genre de place de... un shithole, comme on pourrait dire en bon français. » Et là, il se ramasse là, puis là, c'est... deux familles qui sont à couteau tiré, littéralement. C'est comme délabré, puis bon, voilà, tout plein de violence. Puis évidemment, personne ne fait jamais de lettres, écrit jamais de lettres là-bas. Puis là, lui, il faut, pour le deal, c'est pour repartir, pour sortir de ce trou de marde-là. Il doit arriver à un chiffre, là, plusieurs milliers de lettres qui doivent sortir de cet endroit-là. Et puis là, de fil en aiguille, il y a un peu une histoire de Père Noël à travers ça. Un genre d'homme reclus qui habite dans une cabane, puis qui a fait des jouets, puis en tout cas, j'en dirais pas plus, parce que c'est quand même le fun de voir comment tout ça s'est décliné, puis comment tout le folklore autour du Père Noël, finalement, trouve des racines qui sont vraiment ingénieuses, tu sais, comme... Par exemple, pourquoi est-ce que le traîneau volerait, mettons, je ne divulgâcherai rien, mais tu sais, dans le film, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est ça qui fait en sorte que maintenant, peut-être, la légende fait que, mais que finalement, il y a comme tout le temps une genre de raison un peu plus poche et terre à terre pour tout le folklore qu'on attribue au Père Noël, bon, bref. Mais tout ça pour dire que le style d'animation, vraiment délicieux, c'est comme un genre de nouveau classique de Noël. Pour de vrai, moi, on a fini le film, touché, puis on a fait, l'an prochain, c'est comme avec nos petits cousins, puis en famille, on va pouvoir le réécouter. Là. Ouais,
assez... Je suis content de t'entendre dire ça, parce que là, je t'écoutais décrire le film, puis là, j'essaie justement de réfléchir un peu Tu sais, des films de Noël, on aime tout ça en écouter pendant les fêtes, mais moi, je reviens toujours au même, puis il n'y en a pas tellement des nouveaux qui rentrent dans le canon un peu, tu sais. Puis on dirait que les derniers, mettons, je sais pas, des films récents de Noël qui ont bien marché, qui sont fun à écouter, on va quand même loin. Là. Moi, je pense peut-être à Elf, Santa ou des trucs comme ça, mais tu sais, comme... Il y en a...
Ben, qui reste aussi de famille, tu sais, qui c'est pas des films romantiques ou...
Ben même, tu sais, même un The Holiday, mettons, c'est le fun, tu sais, puis...
Je vois pas de quoi tu parles, hein?
mais reste qu'il y en a pas... Ben, tu sais, il y en a vraiment beaucoup qui sont produits à chaque année, puis d'ailleurs, c'est rendu un sous-genre Netflix, là. Eux-mêmes, ils ont une trilogie de, genre, le Prince de Noël, je pense, quelque chose comme ça. Puis ils en font comme 10 à chaque année, à peu près, là. Mais tant mieux si Klaus, c'en est un qui est dans le haut du panier, puis qui se...
Vraiment.
Mais un peu comme les chansons de Noël, il y en a comme jamais qui vont. Ils sont dans le canon. Là, la dernière, on dirait que c'est celle de Mariah Carey. Là, puis genre...
ouais, c'est ça. Le cinéaste, juste pour le nommer au passage, il s'appelle Sergio Pablos. Et c'est ça. Fait que Klaus, vraiment superbe. Moi, j'ai aussi vu Missing Link de Laika. Une histoire, mon Dieu, si Rémi avait été là, on aurait pu en jaser, j'imagine, parce que c'était un peu une histoire de Bigfoot. Là. Histoire de Bigfoot qui cherchait ses par ce Yeti, là, sur un cryptozoologue là, qui essaie de trouver, c'est ça, là, de se faire accepter par une société de grands... comment qu'on appelle ça? En tout cas, une genre de société huppée. Puis là, lui, il veut justement trouver et le ramener pour le prouver au monde que le Bigfoot existe, bon blabla. Hey, mais inversement, là, par rapport à Klaus, là, tu sais, un film d'animation, c'est carbure à la magie. Mon Dieu, que la magie passait pas. Puis tu sais, Laika, il faut leur donner... La qualité de leur animation, mais la qualité de leur animation devient un couteau à double tranchant parce qu'à un certain point, trop c'est comme passé. Puis là, je veux dire, ça perd le petit edge du stop motion qu'on pourrait peut-être trouver intéressant. Puis juste le protagoniste, les véhicules du film, le personnage principal qui est joué par Hugh Jackman. Il est détestable au point, puis ça se peut des anti-héros, mais dans un film d'animation comme ça qui se veut comme agréable, juste familial, une genre d'aventure, là c'était comme il y avait rien qui nous raccrochait à ça, puis écoute ça je sais même pas comme par où commencer pour le descendre ce film là, j'ai vraiment trouvé ça là faible, pauvre, j'ai trouvé, oh my god.
Alors que quand même le studio Laika, ils ont quand même fait plusieurs films de qualité un après l'autre.
Ah oui, oui, disait, ben oui, oui, c'est pas contre le studio comme l'institution du studio, si ce n'est qu'effectivement leur technique d'animation en stop motion, comme je disais, elle était rendue tellement précise, tellement ils maîtrisent tellement leur art qu'à un moment donné, on est en droit quasiment de se demander, ben là, c'est tant qu'à ça, on pourrait quasiment les faire en 3D, les films. Tu sais, c'est con comme critique, mais c'est un peu comme ça qu'on est lorsqu'on est témoin de. Puis tu sais, ils brandent beaucoup comme ça, là, Missing Link, le film de stop motion le plus ambitieux ever. Et tout, puis t'es comme ouais, mais ça perd son âme.
Mais moi, je suis quand même content qu'il y en ait encore. C'est tellement un art qui est fragile, qui est rare. Puis on dit qu'il y en a comme un ou deux par année là, de cette envergure là, ou des films de, mettons, Isle of Dogs de Wes Anderson. T'sais, à chaque fois qu'il y en a un, on dirait que c'est le fun là, de voir que justement c'est un art qui perdure envers et contre tous. Là.
Mais Isle of Dogs, malgré toutes les Wes Andersonisme, gardait le petit grain du stop motion, je sais pas quoi comment le dire mieux, le petit, tu sais, le saccadé qu'on aime, la micro-imperfection par moment qui nous rappelle qu'il y a des manipulations humaines derrière ça.
Ben, c'était aussi une lettre d'amour à l'animation en tant que telle, parce qu'il y avait plusieurs techniques utilisées dans le film.
Oui.
Puis tu sais, notamment quand il y avait les caméras du studio qui filmaient ce qui était une marionnette, mais sur l'écran de la caméra, c'était comme un animé, mettons, là, tu sais. Donc ça, c'était cool.
Mais, ouais. Fait que ça, pour dire que moi, Missing Link, ça l'a vraiment pas fait, mais que l'antidote à mon cynisme par rapport à Missing Link, ça a été le merveilleux film Klaus que je vous conseille allègrement, dans la joie et l'allégresse.
Puis toi, Delphine, t'étais-tu pas mal à jour sur les films? Est-ce que t'en as rattrapé dans les derniers jours? T'as-tu eu des surprises, des trucs?
Ben, pas tant. Moi, c'est ça, comme les animations, j'ai rien vu, je l'avoue. J'ai pas eu le temps de rattraper tout ça. Moi, j'avais beaucoup fait du rattrapage durant le temps des fêtes. Mais oui, il m'en manquait beaucoup, malheureusement, là, aussi pour ce qui est des documentaires. J'avais pas vu rien du tout, donc oui.
Mais grosse catégorie de documentaire, pour vrai, là, comme... Tu sais, je trouve que c'est un genre qui reste quand même sous-aimé un peu, là, le documentaire, Mais il y en a vraiment... Je trouve qu'on est dans un autre genre de documentaire en ce moment. Puis c'est entre autres, selon moi, à cause des nouvelles plateformes justement qui recherchent du contenu puis qui sont prêts à payer cher pour avoir des bons documentaires. Mais entre autres, tu sais, Force Amos et PBS, la production. Ouais. Bon. Et il y a une version qui existe en ligne là, sur YouTube, légalement, là, gratuite, qui est un cut un peu plus court que celle qui a circulé en festival puis en salle.
Ah, OK, parce que moi, c'est cette version-là que j'ai vue.
Ouais, c'est ça, qui est comme 1h20 versus... Ben, j'ai pas vu celle en ligne, mais moi, je l'avais vu en festival qui durait 1h45, qui est comme 20-25 minutes de coupé.
Ah, OK, d'accord.
Mais, mais reste que, je veux dire, c'est un récit tellement... genre déchirant, puis...
Oui, mais
je dis ça de manière positive. C'est un film incroyablement humain. Puis sur une... C'est ça, une vidéaste qui veut un peu filmer avec les outils du bord un peu la résistance à Alep.
Alep sous le siège, là, vraiment, là, on est en pleine guerre.
Puis évidemment, c'est que quand tu commences un tel projet, toi, tu sais, avec le recul, c'est facile un peu d'avoir un jugement, mais je veux dire, elle a aucune idée, ça va se finir demain, la semaine prochaine, tu sais, donc ça commence un peu de manière très enfantine, naïve, tu sais, très, un peu genre manifestation étudiante, OK, on fait un projet ensemble, puis là, évidemment, la situation empire au fil des ans, comme on connaît ce qui s'est passé et tout, et c'est qu'elle, elle tombe enceinte pendant ce temps-là, donc c'est comme une espèce de journal qu'elle veut léguer à sa fille, donc d'où le titre « Pour sa main ».
Oui, mais ce qui est déchirant, c'est qu'elle, finalement, c'est un long plaidoyer où elle s'excuse de l'avoir mis au monde dans des conditions aussi inhumaines, finalement, tu sais, c'est comme, ça pose toutes les questions de pourquoi la vie doit continuer lorsqu'on vit l'enfer sur Terre, tu sais, d'une certaine façon, puis le film, il répond sans y répondre, et en fait, il répond à ça en filigrane tout le long du film, tu sais, puis j'aimerais juste ça, en fait, moi, le comparer, parce que oui, c'est ça, moi, Force Amos, c'était mon favori des cinq, puis tu disais, oui, meilleur documentaire, mais en fait, c'est le pire de la gang qui a gagné, pour être bien blunt, là, moi, je trouve que, moi, mon coup de gueule de la soirée, si je n'en ai qu'un, ils ont complètement raté leur cible en sélectionnant American Factory. Je sais qu'il y a beaucoup de push de Obama derrière, puis peut-être probablement que ça joue en sa faveur, puis c'est aussi Netflix, bon, mais non, autant American Factory ça l'a pas fait, qu'il y a vraiment beaucoup de positifs dans cette catégorie-là, à commencer par First Amma, que j'aimerais comparer rapidement avec The Cave de Feras Fayad, qui aussi parle de la Syrie, parle d'une manager d'hôpital souterrain là, aussi on est en Syrie en siège, donc. Ça, c'est un documentaire, je ne l'ai pas sous les yeux, je crois que c'est BBC, qui est beaucoup plus léché que Force Amma, puis c'est pas nécessairement positif. Puis l'intro, on dirait quasiment qu'on est l'Apocalypse Now, là, le napalm dans les dans les palmiers. C'est quasiment comme ça, puis je trouvais qu'il y avait comme un malaise de autant esthétiser le siège syrien. Mm-hmm. Les bombes, je trouvais vraiment, il y avait un malaise, puis de toute façon, il était même pas cohérent avec peut-être quoi, le trois quarts du film qui est filmé avec des caméras relativement, consommateurs, là, des caméras pas genre du IMAX, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire certaines scènes qui en jettent avec des transitions pas possibles. T'es comme, ah, c'est de l'esbrouf là, dans un film qui devrait pas en avoir. Puis, c'est pour les comparer encore, moi je trouve que Force Amma est beaucoup de loin supérieur. Puis c'est une question de regard, puis ça c'est mystérieux, parce qu'en documentaire, c'est ça qui, en bon anglais, make or break souvent les films. C'est le regard, c'est cette fameuse... est-ce qu'on est en train d'exploiter un peu la misère, ou est-ce qu'on est en train de la vivre d'une façon plus vraie, plus pure, entre guillemets. Puis dans The Cave, l'œil de la caméra doublé de n'assommante musique qui fait pas du tout confiance à ces images. Tu sais, je veux dire, par exemple, okay, dans The Cave, il y a une attaque chimique, OK? Puis, tu sais, c'est les attaques chimiques, évidemment, c'est condamné par l'ONU, c'est un crime de guerre, bon, tout ça. Puis, il y a une scène, donc, qui est absolument terrifiante, là, où il y a les protagonistes subissent, finalement, des armes chimiques. Puis, bon... en soi, c'est horrifiant, mais là, c'est comme 2 moins donne un plus ou 2 plus donne je sais pas quoi, là, ça s'annule, là, parce que là, il met de la musique de film d'horreur par-dessus ça, puis t'es comme non, 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 okay. ça t'anesthésie dans son artifice, t'sais. Là où Force Amma, il y en a de la musique, il y a de la narration, il y a du cinéma quand même, malgré le côté très low-fi de sa production, mais c'est tellement fait avec plus de goût. C'est pas mauvais The Cave, mais quand tu compares avec l'autre, la comparaison fait mal.
J'aimerais en passant, comme peut-être juste... Vas-y. J'allais juste dire, la compagnie de production, c'est Danish Documentary Production, puis c'est distribué par National Geographic.
National Geographic, ben oui, c'est ça. Bon,
mais eux sont seulement le distributeur, donc ils ont racheté les droits du film.
Ouais, mais ça me surprendrait pas que peut-être qu'ils ont fait l'intro après, ou après l'avoir acheté. Là, c'est pas documenté ce que je dis là, mais il y avait comme, j'avais vraiment l'impression, il y avait les moments National Geographic, puis il y avait le film. Puis ça se répondait comme pas, puis même je trouvais que c'est ça, il y avait un malaise entre les deux. Qui collait pas du tout. Mais j'aimerais juste, parce que je parle beaucoup, je sais, mais The Edge of Democracy, qui est le dernier que j'ai vu, on dirait que j'étais pas particulièrement enthousiaste de le voir. Je savais à peu près à moitié de quoi ça parlait. Je l'ai regardé, s'il était pas sur la liste, je t'avoue qu'il était pas sur mon radar plus que ça. Et ça m'a abasourdi. J'ai trouvé ça magistral. Un documentaire de Petra Costa qui parle des dernières années politiques très tumultueuses du Brésil. Donc, évidemment, là, on parle de la démission de Dilma Rousseff, ensuite l'incarcération de Lula, et ensuite, évidemment, l'élection de Bolsonaro. Puis là, les conséquences que la planète, au grand complet, subit aujourd'hui. Puis le film a un parti pris. Le film, finalement, est vraiment pro-Lula et pro-Dilma Rousseff, et évidemment, anti-Bolsonaro. Mais on lui... Tu sais, souvent en documentaire, j'aime pas trop ça, les documentaires à thèse, mais on dirait que devant certaines thèses, il faut un peu se plier. Tu sais, des fois, devant, par exemple, un bon film de Michael Moore, parce qu'ils sont pas tous bons, mais tu sais, devant un bon film de Michael Moore, t'es comme, ben oui, tu sais, t'es d'accord que les tueries dans les écoles, ça n'a pas vraiment de bon sens, mettons. On se comprend.
La fin justifie les moyens. Là.
La fin justifie les moyens, donc on peut y aller à fond. The Edge of Democracy, je sais qu'il y a certaines critiques de son manque d'impartialité, mais en tout cas, parce que la thèse du film, c'est que évidemment tout ce qui s'est produit contre la gauche, puis la montée de la droite radicale, puis l'élection de Bolsonaro, c'est quasiment, c'est tout dans l'air du temps d'un coup d'État déguisé, finalement.
Puis, mais l'absence de parti pris devient un parti pris aussi, à un moment donné. C'est la fameuse thèse de dire ouais, mais il y a des mauvaises personnes des deux côtés quand tu as comme une manifestation pro-nazi, là, à un moment donné.
Ouais, c'est ça. Exactement. Mais donc, Petra Costa, ce qui m'a fasciné avec The Edge of Democracy, puis là où j'essaie de le mettre en comparaison avec des documentaires, mettons, qui parleraient de politique américaine, c'est que j'ai l'impression que ce film-là fait ce que peut-être 15. Si je regardais 15 documentaires là, pour tenter le pouls des dernières années en politique américaine, j'aurais probablement autant d'infos que ce fucking documentaire-là pour comprendre le Brésil. C'est comme si, en un film, là, c'est d'une densité, mais à couper le souffle. Et Petra Costa, elle a un accès privilégié. Je veux dire, elle est dans le taxi quand Lula se rend à la police. Là, elle est avec lui et le film, sa mère parle avec Dilma Rousseff comme des quelques jours avant sa destitution forcée. Bon, elle a un accès, on est à l'intérieur et c'est pas un documentaire de tête parlante. Il y a une voix hors champ des fois qui nous aide un peu, qui articule quand même le récit, mais sinon on est beaucoup dans du documentaire direct. C'est d'une efficacité monstre, puis c'est un film essentiel, en fait, parce que, oui, c'est le Brésil, mais c'est des montées de la droite, il y en a partout en ce moment, hein. Il y en a en Europe, il y en a aux États, c'est pas Jojo. Je trouve que c'est un film tout désigné pour essayer de comprendre peut-être des mouvances de mentalité, finalement, ne sont pas que intra-frontières brésiliennes. Quand le film a fini, j'ai fait, mais c'est un travail de c'est une dévotion à son sujet sur des années, c'est un travail de recherche, de montage, de tournage, absolument à couper le souffle, c'est définitivement un des meilleurs dans la batch, donc si c'est... voilà, je ne pourrais pas le conseiller plus.
Ça donne le goût de le voir, Pascal.
Yes sir, madame.
Sinon, chacun, j'aimerais ça que vous me disiez un peu, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les Oscars l'an prochain, que ce soit un changement, un film en particulier, une tendance, quelque chose. Toi, Delphine?
Ben c'est quelque chose qui a été soulevé un peu là dans les médias, que ce soit avant ou après, mais c'est sûr que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est la présence des femmes dans les nominations en général. Puis tu sais, j'ai trouvé que c'était un super beau clin d'œil là. Natalie Portman avait une cape avec les noms des réalisatrices brodées en or. Ben tu sais, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas en un an, puis c'est quelque chose qui, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, mais tu sais, il y a un effort qui est fait. Bon, ils l'ont dit là, quand ils ont présenté le prix là, du best score. Ben, c'est la fille qui a fait la musique de genre World of Warcraft, quelque chose comme ça, là, la chef d'orchestre qui a présenté.
Ah oui, absolument. Oui, OK, ouais.
Fait que j'ai trouvé que c'était sympathique, mais tu sais, je trouve que c'est quand même forcé. Puis je sais pas, c'est encore un long chemin à faire de sortir le White Man Club, tu sais. Mais ça serait mon souhait, un peu plus
Puis en fait, je pense que comme il y a un phénomène qui est purement mathématique et certainement désolant, là, mais il y a quand même eu des très bons films de femmes aux États-Unis cette année. Comme à chaque année, mais on dirait que cette année, il y avait vraiment des gros films avec des gros profils, avec des grosses campagnes, là, puis là, on parlait de Farewell tantôt, Little Women évidemment, puis il y en a d'autres, Booksmart peut-être, tu sais. Et j'ai l'impression que quand il y en a trop, ben ça divise le vote et que, tu sais, fait que d'un côté c'est désolant effectivement qu'il n'y en ait pas plus, mais en même temps peut-être que c'est le reflet qu'il y en a plus que jamais, tu sais, qui sont Hustler aussi, c'est comme un des gros films qu'on parlait beaucoup puis que presque y a rien eu finalement. Donc mais peut-être que, tu sais, le fait qu'il y en a plus qui sortent. Non, mais.
Mais tu sais, les femmes, c'est 50% de la population. Là, on devrait penser comme ça. Peut-être qu'à court terme, on pense comme ça. C'est comme, bah oui, tu sais, peut-être que moi, je vote pour elle, toi, tu votes pour elle. Mais tu sais, pourquoi qu'on peut pas voter pour les deux? Tu sais, parce que c'est comme.
Tout à fait, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Sens
là-dedans. Là. Ouais.
Ouais.
Tu sais, on l'a redit, mais on peut parler là, de Farewell, là, qui est un film. Excellent. Tu sais, puis pourquoi ce film-là il est pas représenté aux Oscars du tout? Ça n'a pas de sens. Ouais.
Mais quand même, tu sais, voir le cast puis complet là, de Parasite pour Best Picture, là, ça c'est quand même un moment. Tu sais, puis je sais qu'il faut pas non plus donner trop d'importance aux Oscars, mais je me dis juste, être asiatique, pour cette soirée-là, ça devait être quand même très émouvant. C'est un gros symbole. Puis franchement, là, ça c'est. Ça mérite qu'on le souligne.
C'est la reconnaissance d'une industrie qui est en dehors d'Hollywood, parce que c'est vraiment différent le message qui est lancé de faire gagner Parasite que de serait réalisé par, mettons, un Ang Lee qui serait basé à ce moment-là aux États-Unis avec des acteurs américano, asiatiques, bon, tout ça. Là, on est vraiment, je veux dire, la majorité de ces gens-là, ils parlent avec un anglais limite, là, tu sais, je veux dire, parce que leur industrie là-bas puis leur culture, elle est en coréen, c'est la Corée, c'est vraiment la Corée a débattu. Hollywood.
Puis ils en ont parlé aussi là, dans tous ces speeches. Ça a été mentionné. Ils ont parlé d'un festival qui est gros en Corée, qui est aussi important pour eux que Cannes ou whatever. Puis, tu sais, ils parlaient de leur public. Ils ont même parlé aussi des producteurs qui donnent. Tu sais, les producteurs qui donnent une certaine latitude que je pense que les Américains n'ont pas. Tu sais, puis qu'ils vont oser faire des projets comme Parasite, puis ils vont donner du financement, tu sais. Puis, moi, je fais, tu sais, ça m'a fait un peu le parallèle. Bon, tu sais, pour ceux qui savent, moi, je suis dans le domaine de l'art contemporain. Puis le cinéma, c'est un peu ça aussi. Tu sais, je veux dire, on a cette espèce de vision très blanche, là, très euro-américain, tu sais. Mais il y a tout le reste, tu sais. Puis on est tellement axé sur notre petite personne. Puis quand tu te mets à voir ce qui est fait ailleurs, je veux dire, c'est comme si on n'était pas prêt ou, tu sais, je veux dire, c'est comme le tip de l'iceberg. Parasite, c'est comme le petit bout de tout ce qui s'offre à nous, tu sais, ailleurs.
Oui. Mais c'est une parfaite entrée en matière, parce que si c'est le premier film sous-titré que quelqu'un voit, c'est une très belle introduction. Là, après ça, tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à découvrir des films de Park Chan-wook, d'autres films coréens comme ça. First thing you know, ils vont regarder, tu sais, des films japonais, ils vont regarder des films, tu sais, français, peu importe. Puis ça y est, tu sais, je veux dire, c'est surtout ça, c'est une victoire pour le cinéma du monde, d'une certaine façon. Je pense pas qu'il ait jamais fait son film en pensant devenir l'espèce de porte-étendard de du cinéma international. Puis d'ailleurs, il a souligné qu'il avait aimé le changement de nomenclature là, autour de ce prime-là. C'est plus « foreign language film » parce que « foreign », ça met les États-Unis au nombril du monde. Puis ça, c'est évidemment, il faut repenser un petit peu tous ces mécanismes de réflexion-là. Bon, et... fait que tu sais, moi, je veux dire, c'est une victoire pour le cinéma. C'est une victoire, parce que, tu sais... Ben, moi et vous et beaucoup de gens dans notre cercle de cinéphiles, se limiter à la proposition américaine, ce serait donc triste. Ce serait tellement d'histoires, puis de visions, puis d'une ouverture sur le monde qui nous serait complètement aveuglés, là, tu sais, qui nous serait complètement... chapeau à Parasite, puis ce que ça représente, c'est énorme.
Mais c'est ça, comme tu dis, tu sais, nous, tu sais, je veux dire, soit qu'on a étudié en cinéma, on a eu des professeurs qui nous ont montré ces films-là, ou, tu sais, je veux dire, on a des amis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, tu sais, Paul, il m'a ouvert au cinéma asiatique que je connaissais beaucoup moins, tu sais, mais quand t'as pas ces amis-là ou t'as pas ce milieu-là, t'sais, ça peut être difficile de rentrer dedans. Puis, tu sais, Parasite, c'est un film que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas cinéphiles, qui sont allés voir, puis qui ont fait comme « Hey, ce film-là, il est malade. En as-tu d'autres que tu connais, t'sais, comme ça, que tu peux me... » comme ça, tu dis, c'est une entrée en matière. Puis c'est trippant, justement, que ça l'arrive. Tu sais, c'est pas à cause des cinéphiles qui en achalent nos amis pour dire « Écoute, ce film-là, c'est vraiment bon, même si c'est en polonais, écoute-le. » Tu sais, là, il y a comme cette espèce de porte qui s'ouvre, puis... Non, c'est vraiment trippant, là.
Ouais, c'est l'équivalent de Psy en musique, là, tu sais, dans le sens que... Non, mais c'est un film super accessible, là, Parasite, là, c'est le genre de film, genre, qui peut enlever ce genre de préjugé ou de stigmate qu'un film étranger, c'est forcément intello, pas accessible, tu sais. Absolument. Bong Joon-ho, c'est un peu le Spielberg ou le Scorsese coréen, dans un sens. Ces films sont très accessibles. Puis moi, c'est ça, je suis tellement content que les gens vont se mettre à comme... Bon, mettons, Okja, je pense pas que c'est son meilleur film, mais il a fait des films comme Mother, Memory of Murder, c'est excellents films, The Host, des trucs comme ça. Puis effectivement, après ça, ça va... Probablement, les plus curieux vont aller voir ses collègues, vont aller voir, c'est qui cette Park Chan-wook, puis
ensuite, on va leur faire écouter de Burning maintenant. Écoute.
Mais Burning, c'est un peu plus niche. Faut descendre ou monter l'échelle de la cinéphilie mondiale une marche à la fois, là, quand même, sinon, là, les gens, ils vont. Hein. Mais bon, de toute façon, hey, pour revenir à ça, là, meilleur réalisateur, là, moi, Exit Sam Mendes pour 1917, puis je sais qu'on a les Oscars, puis là, mais là, mettons que je pouvais faire avec un coup de baguette magique un changement, là, je mettrais Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu. Ça aurait été beau. Ça aurait été
un souhait.
Ça aurait tout réglé, mais qu'est-ce que tu veux?
Tu as un souhait pour l'an prochain, Pascal?
Tu sais, moi, t'as dit quelque chose au début que j'étais pas trop d'accord. T'as dit la course était comme pas si excitante que ça. Moi, en fait, j'ai aimé ça, la course imprévisible. Okay. J'ai aimé ça. Donc, j'aime mieux quand il y a 4 films-ish dans une compétition que quand il y en a juste 2 ou quand il y en a juste 1. Parce que quand il y en a juste 2 ou quand il y en a juste 1, là, je trouve que les discours deviennent complètement surréalistes là, autour de ces films-là.
Ouais, ouais, ouais.
Puis j'ai aimé ça que les Oscars soient plutôt... qu'il y ait moins de temps entre l'annonce des nommés puis le show de télé. T'sais, on dirait que c'est comme... C'est con, là, mais c'est un petit 2 semaines de moins là, à parler des mêmes Christy films, tu sais.
Ouais,
puis
ouais.
c'est comme correct. On dirait que cette année, j'ai trouvé ça... Tu sais, ils ont fait les nominations, il y a eu le temps des fêtes, bon, tout ça. Non, même, les nominations, c'était en janvier. C'est après le temps des fêtes, puis vois-tu, début février comme ça, on est déjà dans le show. Je trouve que c'est correct parce que, tu sais, c'est comme, c'est beau les Oscars, mais c'est pas la vie au complet, puis ça peut pas monopoliser un quart de l'année cinéphilique, tu sais. Faut que c'est correct que ce soit sur un mois et demi, un mois, puis après ça, on tourne la page, tu sais. Fait que, ouais, moi, j'ai aimé la formule, là, comme ça, raccourci, puis bing-bang, là, tu sais. C'est ça.
Pas le temps de niaiser.
Pas le temps de niaiser, prenez vos prix, puis après ça, on est en 2020, là, tu sais. 2021, l'an prochain.
Puis, ma part, moi, je souhaite juste peut-être ça, un peu plus de films jeunes, tu sais. Il y avait beaucoup Oscar So White, là, il y a une couple d'années. Là, je trouve que c'est Oscar So Old, là, tu sais. Puis, c'est temps de faire la place à d'autres, là. Ben, évidemment, c'était pas tous des gens super âgés, tu sais. Todd Phillips,
c'est pas si âgé que ça.
Noah Baumbach non plus, mais...
On a privilégié des réalisateurs qui sont vraiment, comme, établis, puis... Non, t'as raison.
Ouais. Parce que c'est vrai que c'est excitant d'un coup, tu sais, comme tu te rappelles l'année où il y avait Damien Chazelle ou Beast of the Southern Wild, ouais, c'est comme ça, tu sais, c'est comme t'en as un dans l'eau puis t'es comme bon, tu sais, comme t'as lui, tu sais, cette année, bon, Parasite représentait un peu ça, mais en même temps, c'est un maître dans son pays, mais pour bien des gens, tu sais, c'est quand même bon. Ça représente autre chose, bon, mettons, mais sans Parasite de ce line-up-là, je suis vraiment d'accord avec toi, là. Là, je suis comme non, non, là, il faut au moins un Uncut Gems, là, il faut quelque chose du genre parce que sinon, on implose, c'est pas Little Women qui peut à la fois porter la cape du film réalisé par une femme et genre film un peu plus moderne, jeune, tu sais. Non, là, c'est ça. Fait que oui, je t'entends là-dessus. C'est ça, c'était le fun quand Ben Zicklin était nommé. C'était le fun quand Damien Chazelle était nommé quand même.
Ouais, tout à fait.
Donc, ouais.
Puis, rapidement, là, parce que moi, j'avais un autre truc que je voulais jaser, mais le temps file. Mais je vais juste un peu vous teaser là-dessus parce que c'est ma nouvelle obsession. Oh. Et c'est rare que je tombe sous le charme d'une série télé. Mais là, j'avoue que j'attends chaque semaine avec impatience pour le documentaire événement de ce début d'année, produit par HBO. C'est MacMillions de James Lee Hernandez et Brian Lazard. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Aucune.
Pas du tout.
Donc, MacMillions, c'est donc une série documentaire de 6 épisodes. Il y en a 2 de sortie présentement. Au Canada, c'est sur Crave, mais c'est donc produit par HBO. Et c'est donc l'enquête, en fait, qui ça se passe dans les années 90 et début 2000, le scandale.
Répète le nom.
MacMillions, comme dans McDonald's, comme dans le Monopoly, et cette espèce de fraude qui fait qu'il y a une famille, en fait, qui ont remporté, plusieurs membres de la même famille ont remporté le million de dollars pendant des années. Sans que ça soit connu. Parce que, bon, c'est tout le temps un peu des gens éloignés. Puis là, on se rend compte qu'il y a de la mafia italienne derrière ça, de la côte est des États-Unis. Et qu'il y avait comme toute une espèce de système en place là, pour justement dérober ces timbres qui faisaient des millionnaires automatiquement. Et, tu sais, on connaît tous le fameux jeu Monopoly qui revient à chaque année. Et c'est vraiment du documentaire là, fast-food, et vous pardonnerez le jeu de mots facile, mais tu sais, un peu ça fait penser vraiment à la même époque, à l'an dernier, avec comme les deux documentaires sur le festival Fire qui est sorti, qui sont pas des documentaires extraordinaires, tout ça, mais il y a un sujet pop, le fun, qui fait qu'on a tous un peu entendu parler de ça. Et là, c'est raconté du point de vue des agents du FBI qui ont mené cette enquête-là. Et bon, c'est un peu long les épisodes, c'est des 55 minutes, ça, puis c'est un peu indulgent le montage. Il y a eu beaucoup de reconstitutions de comment ça s'est fait à l'époque. Puis des fois, c'est un petit peu trop vulgarisé. Il y a des scènes d'enquête d'FBI à l'interne que tu le sais que ça se passe pas exactement comme ça, là, avec quasiment des clichés, là, genre un tableau blanc avec. Genre, qui est le coupable? Point d'interrogation sur un gros billboard blanc souligné, là, tu sais. Mais c'est le fun, c'est cool. Puis, tu sais, pour vrai, c'est comme. Parce que c'est un sujet aussi universel, tu sais, t'es comme, ah ouais, j'en reviens pas que, comme, il y a des gens qui ont vraiment fait ça. Et c'est entre autres, dans les producteurs, t'as Mark Wahlberg, puis, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir une version de fiction de ça dans quelques années. Genre, c'est comme trop un bon scénario, genre, puis c'est comme trop cool comme histoire à suivre. Ça rappelle beaucoup, en fait, le scénario de Argo aussi, là, que Ben Affleck avait fait. Ouais. Parce que, justement, le FBI, donc, quand ils vont approcher McDo pour la première fois pour dire « Hey, je pense que, genre, votre concours, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de détourner les fonds. » Puis eux, ils savent pas est-ce que c'est du monde de chez McDo qui sont infiltrés. Fait que là, ils vont juste en parler à, genre, une ou deux personnes de la sécurité chez McDo. Puis là, je vous dirai pas tout ce qui se passe. Puis de toute façon...
t'es excité, par exemple, ça.
Je suis excité, c'est le parle, fun, là. Puis... Ouais, puis je refuse d'aller voir un peu sur... Parce qu'évidemment, c'est des faits qui sont anciens. Fait que je pourrais aller voir sur Wikipédia puis essayer de googler les infos. Mais le documentaire te donne vraiment les infos. Là, c'est le fun. Tu t'en demandes avec les bons punch puis les bonnes finales d'épisodes que tu as le goût de suite d'avoir ce qui va se passer après. Mais c'est ça. Puis en fait, rapidement, tu sais, là, il explique à McDo la situation. Puis le McDo sont pas au courant. Puis sont comme... Là, ils sont devant un dilemme. Est-ce qu'on annule le jeu? Parce que là, la nouvelle édition de cette année-là, qui est l'année 2001... Est comme sur le point d'être lancé, fait que sont comme est-ce qu'on annule ou est-ce qu'on collabore avec l'FBI? Puis l'FBI est comme non, s'il vous plaît, aidez-nous à les débusquer puis prouver qu'il y a comme une famille qui contrôle ça. Et là, ils sont comme bon, ok, on va le faire, mais c'est la seule fois, puis si vous les arrêtez pas maintenant, c'est fini, tu sais, parce qu'évidemment, ils ont tellement de l'image de marque en tête. Puis si ça se savait qu'il y avait comme une famille qui contrôlait ça, ça pouvait comme évidemment mettre McDonald's dans le trouble. Et là, t'as l'équipe, t'as genre un jeune loup du FBI, un jeune agent qui s'ennuyait, qui travaillait vraiment sur des cas de fraude fiscale, tout ça. Puis quand il commençait à chercher là-dessus, il est comme « OK, il faut qu'on travaille là-dessus, les gars. » Puis là, ils sont comme « On va se déguiser, hein, on va créer une fausse compagnie de production de reportage qui va aller interviewer le gagnant, tout ça. » Fait que là, c'est comme le FBI qui doit jouer au caméraman, puis genre au gaffer, puis tout ça. Puis c'est super drôle, puis c'est super bon. Puis c'est une histoire vraie, tu sais. Je veux dire, tu vois les archives de ce qu'ils ont filmé, puis tu sais, les supposés gagnants qui se contredisent à tour de bras, puis que ça... Pendant des années, ça passait dans le bar, puis personne ne s'est posé de questions, tu sais, parce que, évidemment, tu te dis, c'est sûr que, genre, McDonald's doit savoir de quoi il parle, puis il n'y a aucune façon que le jeu peut être rigué, right? Mais non, il y a vraiment comme eu toute une fraude. Ça fait un peu genre film de Soderbergh, là, tu sais, comme une espèce de Logan Lucky, là, tu sais, que tu te dis, c'est comme trop gros pour être vrai, mais c'est vrai. Fait que c'est ça qui est comme un peu incroyable de cette histoire-là.
Mais ce qui est super intéressant, c'est un sujet... Excuse, j'ai comme coupé, là, mais... Non, c'est vraiment un sujet... Tu sais, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, puis, tu sais, c'est rafraîchissant, je trouve, d'avoir un sujet comme ça, que c'est comme une histoire que personne n'est au courant, mais que ça l'arrive, puis, tu sais, ça sort... on est tanné, ben, en tout cas, moi, je suis tanné de voir des documentaires sur la guerre, puis c'est important, là, mais tu sais, je veux dire... Ouais. C'est rafraîchissant.
La guerre.
Ben oui.
Ben, ça s'inscrit un peu dans
la vague.
Mais ça s'inscrit un peu dans la vague, toutes les listes de documentaires de true crime puis d'enquêtes qui deviennent addictives, tout ça. Mais c'est vrai que celle-là, c'est vraiment une qui est beaucoup plus divertissante, d'où tantôt ma comparaison avec Fire Fraud un peu. Là. Mais non, je le recommande. Il y a 2 épisodes sur 6 de sortie. Ça sort un à chaque semaine le lundi sur HBO. Donc, Mac Millions, vous écouterez ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, voilà, c'était notre point de vue cette semaine, notre épisode. On va se quitter sur la bonne annonce du film Mafia Inc. qu'on a accroché il y a quelques jours de Pods et qui prend l'affiche en ce jour de la Saint-Valentin. Parce que là, en plus, il y a un lien avec la mafia. Je trouvais que c'était comme conceptuel. Beaucoup de films qui sortent à la Saint-Valentin, dont Le portrait de la jeune fille en feu, qu'on avait mentionné. Alors, c'était notre point de vue. Merci beaucoup, Delphine Larose, d'avoir été des nôtres.
Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous, les copains, ce soir.
Bon. Et mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mon collègue.
Pascal Plante.
Et, Pascal, tu pourrais-tu mettre en montage, tu es capable d'aller chercher la vidéo de Kevin Télandry qui gueule, genre juste le son de lui qui gueule quand on nomme Parasite parce que c'est beaucoup trop iconique. Puis on pourrait le mettre à la fin de l'épisode. Parasite.
Faire le cash maintenant. Soit tu manges avec une paille pour les 6 prochains mois.
Monsieur Xenakis, est-ce que ça va?
Oui, oui. Oui, ça va très bien, Julie.
J'appelle la sécurité.
Non, non.
Parfait.
Merci, Julie.
Merci Julie.
Je sais que je peux toujours compter sur toi.
Il est à toi, là. Je dirais à mon monde d'être très prudent.
T'avais dit juste toi et moi?
C'est qui, lui?
Calme-toi. C'est comme je t'avais dit. Je suis avec moi, bro.
Pas de génération en génération, hein. C'est 30 ans que je les vois aller.
Mais oui, ça fait 30 ans que tu fais de la business avec eux.
Merci beaucoup.
Les habits, y'a rien à voir.
S'il arrive de quoi, tout ça, c'est à toi. Petite sœur, ce sera jamais normal.
Que tu sois le parrain ou le pape,
je veux plus vous voir. Toi et ta maudite famille de bandits.
Ça va être compliqué, Henri. Le territoire est devenu instable. De morts, blessés. Vous devez comprendre qu'on va faire beaucoup plus d'argent en collaborant et en se tirant dessus.
Monsieur Paterno, que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes le parrain de la mafia canadienne?
Je suis toujours prêt à aider les autres. Toujours.
Les gros changements, ils en viennent.
On va faire ce qu'il faut.
Dis-moi juste que t'as pas fait ça.
T'es barré de la famille.
C'est eux contre moi.
Les autres contre nous autres.
Ça veut dire qu'on va se tenir. Qu'on va être fort, l'un pour l'autre. Pour le meilleur et pour le pire.